Bonjour à chacun et à chacune. Beaucoup de personnes croient en l'existence d'une vie extraterrestre. Chaque année, des sommes astronomiques sont consacrées à la recherche d'une vie extraterrestre. Et si des extraterrestres sont trouvés, je pense que cela susciterait tout un tas de questions comme est-ce qu'on peut entrer en contact avec eux? Seraient-ils des amis? Seraient-ils des ennemis? Tous les ans, on ne compte plus tous les articles, les blogs, les livres, les films, les magazines qui éditent des choses sur ce sujet. En 1977 déjà, Steven Spielberg, un cinéaste bien connu, a sorti un film qui s'intitule « Rencontre du troisième type ». Et quand on lit le synopsis, le résumé du film, il est dit ceci « Une forme d'intelligence extraterrestre tente d'établir un contact avec les terriens ». Aujourd'hui, ce n'est pas une rencontre du troisième type que je veux partager avec vous, mais la rencontre de Dieu avec Jacob, et surtout ce qu'elle nous apprend à propos de ce Dieu qui veut nous rencontrer. Où en est Jacob ? On va ouvrir ce matin un deuxième volet, une deuxième fenêtre sur sa vie. Et juste un petit rappel assez bref de ce qu'on a vu dans cette première fenêtre qu'on a ouverte il y a quelques semaines de cela. Rappelez-vous, Rebecca, la maman de Jacob, est stérile, mais Dieu va agir miraculeusement. Après 20 ans d'attente et de prière, elle tombe finalement enceinte de jumeaux. Et Dieu, dans sa grâce souveraine, annonce que ce sera le plus jeune, et pas l'aîné, qui héritera de ses bénédictions. Et puis on voit Jacob qui prend les choses en main. Ayant grandi, il va échanger le droit d'aînesse de son frère Ésaü contre un plat de lentilles. Et entre cet épisode, ce premier épisode qu'on a vu de la vie de Jacob et notre passage d'aujourd'hui, la situation s'est encore dégradée. Avec l'aide de sa maman, Jacob a concocté un plan bien tordu, bien ficelé, pour tromper son vieux père malvoyant et voler à Ésaü la bénédiction que son père voulait lui donner. Vous pourriez lire cela dans Genèse, le chapitre 27. Jacob, le supplanteur. Jacob, le trompeur. Jacob, le rusé, a encore frappé. Quelle est la réaction d'Ésaü ? Trahi. Trompé. Il a de la haine pour son frère. Et il a envie de le tuer. Chapitre 27, verset 41. Jacob n'a donc d'autre solution que de fuir pour sauver sa vie. Et c'est donc avec la bénédiction de son père, et au passage, la mission de trouver une femme, qu'il s'exile, qu'il part seul et qu'il se met en route pour un long trajet de 600 kilomètres. Sur le plan spirituel, Jacob n'a très certainement entendu parler de Dieu qu'au travers de ses parents. Et on voit au chapitre 27, verset 20, que Jacob parle à son père de « l'Éternel, ton Dieu ». À ce stade donc de sa vie, il ne semble pas avoir encore fait d'expérience personnelle avec Dieu. Comme souvent, c'est dans les déserts et parfois les tempêtes de nos vies, comme cela a été rappelé ce matin. Quand on est seul et parfois éprouvé, que Dieu en profite pour venir à notre rencontre. Je vous propose la lecture du passage de ce matin en deux parties qui feront les deux points du plan de ce message. Je vous propose tout d'abord la lecture donc de Genèse, chapitre 28. On va lire les versets 10 à 15. Jacob avait quitté Beersheba et marché en direction de Haran. Comme le soleil se couchait, il prit une pierre pour s'en faire un oreiller et se coucha pour passer ainsi la nuit dans le lieu qu'il avait atteint. Dans son rêve, il vit une sorte d'escalier reposant sur la terre et dont le haut atteignait le ciel. Et voici que des anges de Dieu montaient et descendaient cet escalier. L'Éternel lui-même se tenait tout en haut et lui dit « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton ancêtre, et le Dieu d'Isaac. Cette terre sur laquelle tu te reposes, je te la donnerai à toi et à ta descendance. Elle sera aussi nombreuse que la poussière de la terre. Elle étendra son territoire dans toutes les directions, vers l'ouest et l'est, vers le nord et le sud. Par toi et par elle, toutes les familles de la terre seront bénies. Et voici, je suis moi-même avec toi. Je te garderai partout où tu iras et je te ferai revenir dans cette région. Je ne t'abandonnerai pas, mais j'accomplirai ce que je t'ai promis. Jusqu'ici, c'était la lecture de la parole de Dieu. Que penser d'un homme tel que Jacob? Que penser de ses actes et de sa façon d'agir? On serait tenté, je serais tenté, de penser que finalement, Jacob ne subit que les conséquences de ses choix et de ses actes, n'est-ce pas? Au final, il a obtenu ce qu'il cherchait. Maintenant qu'il assume et qu'il se débrouille. Que pense Dieu d'un homme tel que Jacob? Je suis reconnaissant de ce que Dieu ne raisonne pas comme moi, de ce que Dieu ne raisonne pas comme nous, les hommes. On va voir donc dans cette première partie cette vision de Jacob et comment cette vision met en lumière la grâce de Dieu. Est-ce que vous connaissez ces poupées russes? C'est des poupées qui sont tous enchevêtrées les unes dans les autres. Et en fait, quand on les pose sur une table et qu'on soulève une poupée, il y en a encore une en dessous. Et puis on la soulève, elle est un petit peu plus petite, et il y en a encore une en dessous. Et avec Dieu aussi, c'est un petit peu ce qui ressort de cette vision. C'est grâce sur grâce. Quand on en découvre une, eh bien juste après, il y en a encore une autre. Alors, première poupée de grâce, chapitre 28, les versets 10 à 12. Jacob voit un escalier, ou peut-être dans d'autres versions, une échelle. Cet escalier de la terre vers le ciel fait penser aux ziggourats mésopotamiennes que vous voyez donc ici, qui étaient des hautes tours pyramidales à base carrée avec au sommet un sanctuaire où une idole était adorée. Et ces ziggourats prétendaient unir la terre et le ciel, et cela nous fait penser à quel épisode? L'épisode de la tour de Babel. Mais justement ici, dans cette vision que Dieu accorde à Jacob, Dieu opère un renversement de ce qui se passe à Babel, ou dans ces ziggourats mésopotamiennes. Au sommet de cet escalier que Jacob voit, ce n'est pas une idole qu'il y a, mais c'est Dieu lui-même. Les anges, qui sont les messagers de Dieu, qui montent et descendent sur cet escalier, qui touche à la fois le ciel et la terre, indiquent qu'il y a une communication possible entre la terre et le ciel, entre les hommes et Dieu. À Babel, les hommes voulaient se faire une renommée. Dieu a stoppé leur projet, plein d'orgueil, parce que Dieu est celui qui désire toute la gloire. Et on l'a chanté ce matin, je chanterai gloire à l'Éternel. Dieu désire toute la gloire. Ici, comment est-ce que Dieu se fait un nom ? En montrant que oui, la relation entre les hommes et Dieu est possible. Mais c'est son initiative. C'est grâce à lui. Ce ne sont pas aux hommes de s'élever vers Dieu, c'est impossible. Mais c'est Dieu qui vient à la rencontre des hommes et qui rend la communion possible. Voilà donc cette première poupée de grâce que Dieu offre à Jacob. Dieu n'a pas coupé les ponts avec Jacob. Au contraire, il est en train de lui dire au travers de cette vision, « Jacob, la relation entre toi et entre moi est possible. » Deuxième poupée de grâce, dans les versets 13 à 14, Dieu avait fait une promesse au grand-père de Jacob, à Abraham, qu'il avait renouvelée à son père Isaac. Maintenant, Dieu renouvelle personnellement cette promesse à Jacob lui-même. Cette promesse de lui donner une terre, cette promesse de lui donner de nombreux descendants, et la promesse que lui et sa descendance seront en bénédiction pour toutes les familles de la terre, pour toutes les nations de la terre. Et cette promesse, on le voit au verset 15, est inconditionnelle. Il n'y a pas d'arnaque dans ce que Dieu offre et promet à Jacob. Vous savez, ce n'est pas comme ces promotions ou ces offres mirobolantes que l'on reçoit parfois dans la boîte aux lettres, où il y a une petite astérisque. Et il faut regarder et puis il y a tout plein de petites conditions à remplir finalement pour obtenir ce qui nous est promis. Là, avec Dieu, il n'y a pas d'arnaque, pas de petite astérisque. Son accomplissement ne dépend pas de ce que fera ou ne fera pas Jacob. Dieu lui-même en est le garant. Il s'engage lui-même à accomplir. Voilà quelle est cette deuxième poupée de grâce. Non seulement la relation entre toi, Jacob, et moi est possible, mais en plus de cela, je vais me charger de t'assurer un avenir. Troisième poupée de grâce, verset 15. Dieu assure à Jacob sa présence fidèle et sa protection jusqu'à son retour dans son pays d'origine. Le grand Dieu de l'univers va être le garde du corps personnel de Jacob tout au long de ses prochaines années. Et tout ça, c'est gratuit. Résumons ce message de Dieu pour Jacob. Dieu est en train de lui dire, quel que soit ton passé, et là où tu te trouves aujourd'hui, Jacob, et je trouve ça tellement intéressant, que Dieu ne mentionne rien du passé et de l'attitude de Jacob jusqu'à aujourd'hui. Quel que soit ton passé, et là tu te trouves aujourd'hui, eh bien sache, Jacob, qu'il y a une possibilité de relation avec moi. Sache que je vais t'assurer personnellement un avenir au-delà de ce que tu peux imaginer. Et sache que je vais être à tes côtés et veiller sur toi. Voilà qui est ce Dieu en qui nous croyons aujourd'hui, avec qui nous sommes en relation pour plusieurs d'entre nous. Un Dieu d'amour, un Dieu de grâce, un Dieu qui n'a pas changé, qui reste le même. Une relation avec lui est toujours possible. Bien plus tard, Jésus lui-même fera allusion à cet épisode de la vie de Jacob en affirmant ceci. Il dit ceci à ses disciples. « Oui, je vous l'assure, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre entre ciel et terre par l'intermédiaire du Fils de l'homme. » Jean chapitre 1, verset 51. Comment est-ce que Jésus se définit ? Qui est Jésus ? Jésus se définit clairement comme celui qui, dans cette vision, est l'escalier. Il est celui qui rend possible cette communion entre Dieu et les hommes. Alors voici une question qu'on peut se poser à ce stade. Pourquoi est-ce que Dieu fait preuve d'autant de grâce envers Jacob, envers cet homme coupable de tromperie, envers cet homme coupable de mensonges, plein de coups tordus? Parce que la grâce nous parle de ce que c'est une grâce. La grâce de Dieu est une faveur imméritée. Donc un cadeau offert qu'on ne mérite pas. Et ce qui est cadeau pour celui qui le reçoit a forcément un coût pour celui qui l'offre. Si Dieu n'anéantit pas Jacob, c'est uniquement en raison de sa promesse inconditionnelle. C'est parce qu'il s'est engagé à ce que la malédiction liée à ses désobéissances, à nos désobéissances, à ses défaillances morales, à nos défaillances morales, à sa rébellion, à notre rébellion, retombe non pas sur Jacob, retombe non pas sur nous, mais retombe sur Dieu lui-même. Un autre passage nous dit, dans Ésaïe au chapitre 53, le verset 6, « Nous étions tous errants, pareils à des brebis. Chacun de nous allait par son propre chemin. L'Éternel a fait retomber sur lui les fautes de nous tous. » Ce passage encore nous parle de Jésus. Jésus, Dieu fait homme, celui qui a subi à notre place les conséquences de nos défaillances. Où en êtes-vous ? Où en êtes-vous dans votre vie ? À quelle étape du chemin vous trouvez-vous ? Peut-être que votre vie ressemble un peu à celle de Jacob. Peut-être que vous êtes du genre à ne rien lâcher. Vous avez dû vous battre pour obtenir ce que vous souhaitiez. Vous avez peut-être fait des choix, peut-être fait des choses peu glorieuses pour y arriver d'ailleurs. Aujourd'hui, peut-être même que vous subissez les conséquences de tous ces choix que vous avez faits. Peut-être même que d'une certaine manière, vous essayez de fuir, vous essayez d'échapper à votre passé. Quel que soit votre cheminement, Dieu le connaît. Il est là et il vous offre une relation personnelle et durable avec lui. Il vous offre un avenir Il vous offre l'assurance de sa présence et de sa protection tout au long du chemin qui est à venir. Non pas pour quelques jours seulement, mais pour toujours. Revenons-en à Jacob. Je ne sais pas ce que vous pensez de tout ce que Dieu est en train de lui présenter, est en train de lui offrir. C'est énorme, n'est-ce pas ? On peut se poser cette question. On a été amené à réfléchir à cela pour nous. Comment est-ce qu'on réagit à cette grâce de Dieu ? Mais comment va réagir Jacob ? Est-ce qu'il va faire confiance à Dieu ? Est-ce qu'il va douter de ce que Dieu lui propose ? Est-ce qu'il va peut-être complètement ignorer cela ? On ne va pas faire durer le suspense plus longtemps, on va passer à la deuxième et dernière partie, et au deuxième point ensuite de ce message. Versets 16 à 22. Jacob s'éveilla et s'écria « Assurément, l'Éternel est en ce lieu, et moi je l'ignorais !» Il fut saisi de crainte et ajouta « Ce lieu est redoutable. Ce ne peut être que le sanctuaire de Dieu. C'est ici la porte du ciel. » Le lendemain, de grand matin, il prit la pierre sur laquelle il avait reposé sa tête. Il la dressa en stèle et répandit de l'huile sur son sommet. Il appela cet endroit Bethel, qui signifie maison de Dieu. Auparavant, la localité s'appelait Luz. Puis il fit le vœu suivant. Si Dieu est avec moi, s'il me protège au cours du voyage que je suis en train de faire, s'il me fournit de quoi manger et me vêtir, et si je reviens sain et sauf chez mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée comme stèle deviendra un sanctuaire de Dieu, et je t'offrirai le dixième de tous les biens que tu m'accorderas. On a vu comment la vision de Jacob mettait en lumière la grâce de Dieu. Ici, on va voir comment la réaction de Jacob met en lumière la patience de Dieu. On se rend compte que Jacob ne réalise pas complètement tout ce que représente ce qu'il vient de voir. Cette rencontre ne va pas révolutionner et transformer fondamentalement la vie de Jacob. Et on le voit au travers de sa réaction. Tout d'abord, dans les versets 16 à 19, on voit que Jacob prend conscience de la présence de Dieu, ce qui le rend craintif. Normal. Quand on se retrouve confronté à la présence de Dieu, cela ne peut nous laisser indifférents. Il va se réveiller au petit matin et matérialiser cela au travers de la pierre sur laquelle il dormait. Et il va la dresser tout en donnant à ce lieu le nom de Bethel, qui signifie « maison de Dieu », un peu comme un mémorial. En fait, Jacob ne saisit pas encore le fait que Dieu est présent partout, que sa présence n'est pas limitée en un lieu. Mais puisque Dieu a rencontré Jacob ici, c'est logique pour lui, à ce moment-là, qu'on puisse à nouveau rencontrer Dieu à cet endroit précis. Et puis dans les versets 20 à 22, Jacob va faire un vœu. Jacob envisage pour la première fois que l'Éternel puisse devenir son Dieu. Verset 21. Il est aussi prêt à lui offrir une partie de ses revenus. Verset 22. Mais pour cela, Jacob fixe ses conditions. Si Dieu fait ceci, cela et tout le reste, alors ok. Qu'est-ce Qu'est-ce que vous pensez de cette réaction ? Je crois qu'à sa place, j'aurais sûrement fait pareil. Et en ce sens, il serait peut-être trop facile de lui jeter la pierre en disant « Quand même, Jacob, t'as du culot. T'as pas entendu ce que Dieu vient de te dire ? Toutes les conditions que tu poses, Dieu s'est déjà engagé à les réaliser pour toi. Tu n'as pas saisi. Comment est-ce qu'il faudrait te le dire ? Et puis, qui tu es pour marchander avec Dieu comme ça ? Pourquoi tu ne fais pas confiance à Dieu ? Pourquoi est-ce que tu exiges de Dieu des preuves incontestables avant de t'engager avec lui ? Je crois qu'il faut se mettre un petit peu dans la peau de Jacob. Imaginez un petit peu ce qu'il vient de voir et ce qu'il vient d'entendre. Je crois que ces promesses qu'il a reçues devaient totalement le dépasser. Jacob ne devait pas réaliser l'ampleur des promesses de Dieu. Imaginez-le en train de se dire, mais moi, Jacob, avec ma vie telle qu'elle a été jusqu'ici, tu me proposes une relation avec toi. Tu me promets vraiment tout ça ? Tu me vends du rêve, là. Il y a sûrement un piège quelque part. Et puis, Seigneur, tu sais comment je fonctionne. J'ai trompé mon frère. J'ai trompé mon père. Ben, je ne veux pas me faire avoir. Alors, voici ce qu'on va faire. Je te propose un marché. Je veux bien que tu deviennes mon Dieu, mais à la seule condition, c'est que tu accomplisses ce que tu as promis. Et je veux voir tout ça se réaliser dans ma vie. Pourquoi est-ce qu'on peut imaginer cette réaction ? Pourquoi est-ce qu'on peut comprendre peut-être cette réaction ? Parce que nous ne sommes pas différents de Jacob. Nous sommes tous comme lui. On a besoin de voir pour croire. On mesure souvent Dieu à notre mesure et on essaye de marchander avec lui. Comme on peut marchander parfois au marché. Tu me fais quel prix ? Allez, moi je t'en propose un petit peu moins. Ou pour ceux qui aiment peut-être le jeu Les Colons de Catane, un jeu où c'est basé sur des ressources, des matières, et comment on peut évoluer en faisant du troc avec les autres. On fait du troc avec Dieu, on veut marchander avec Dieu. Et puis on fait cela parce que la grâce de Dieu nous dépasse. C'est quand même un peu fou tout ça. On a du mal avec cette idée d'entrer dans une relation avec Dieu qui serait seulement basée sur ce que Dieu fait pour nous et dans laquelle on n'a aucun mérite, si ce n'est d'être pleinement aimé de Dieu. Dans laquelle Dieu nous dit « je t'attends et tu n'as rien à faire parce que je me suis chargé de tout ». Comment est-ce que Dieu réagit à ce vœu que Jacob a fait ? Est-ce qu'il l'a bien pris ? Est-ce qu'il le prend mal ? Est-ce qu'il va enfin peut-être commencer à reprocher quelque chose à Jacob ? La suite du récit nous dit ceci. Premier verset du chapitre 29. Jacob reprit sa marche vers les pays de l'Orient. Dieu ne reproche rien à Jacob. Dieu fait preuve de patience envers lui. La prochaine étape de sa vie chez son oncle Laban ne témoigne pas d'un changement radical dans la vie de Jacob suite à cette vision. Et pourtant, cette première rencontre avec Dieu restera comme un jalon, un point de repère pour la suite de sa vie. J'aimerais conclure. Ce passage a mis et met en lumière la manière merveilleuse dont Dieu nous rencontre là où nous en sommes. Ce passage a mis en lumière qui est Dieu. Un Dieu plein de grâce, un Dieu plein de patience envers nous. Certaines personnes ont vu leur vie complètement bouleversée et prendre un virage radical dès leur première rencontre avec Dieu. Mais ce n'est pas une généralité. Pour d'autres, et pour une majorité j'ai envie de dire, c'est le résultat d'un cheminement plus ou moins long, marqué par diverses expériences avec Dieu. Dieu nous dit ailleurs dans sa parole que sa grâce et sa patience sont pour nous dès aujourd'hui, mais qu'un jour, sa grâce et sa patience prendront fin. Mais pour celles et ceux qui sont entrés dans cette relation avec lui, que ce soit depuis quelques jours ou de nombreuses années maintenant, Dieu continue de manifester sa grâce et sa patience à chaque instant, là où nous en sommes sur le chemin de nos vies. Un auteur précise ceci: dans notre manque d'assurance, notre obéissance conditionnelle, notre mélange de foi et de doute, notre amalgame de crainte de Dieu et d'intérêt égoïste, dans notre compréhension et notre folie. Alors que cette grâce et cette patience de Dieu constituent un profond encouragement pour chacun de nous à faire preuve de grâce et de patience aussi dans nos relations les uns avec les autres. Je vais terminer par la prière. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole. Merci parce qu'elle reste plus que jamais d'actualité. Merci parce que tu es ce Dieu qui ne change pas. Et cela nous a été encore rappelé ce matin. Merci parce que tu es ce Dieu qui est rempli d'amour, rempli de grâce, rempli de patience avec chacun de nous. Merci parce que tu es ce Dieu qui prend l'initiative de nous rencontrer sur le chemin de nos vies. Merci parce que tu te révèles. Merci parce que tu es celui qui nous offre cette relation avec toi. Merci parce que tu es celui qui nous offre un avenir. Tu es celui qui nous offre ta présence sur le chemin de nos vies. Merci parce que tout cela est gratuit pour nous, parce que toi tu en as payé le prix, parce que tu t'es offert sur cette croix et que tu as subi les conséquences de nos mauvais choix dans nos vies, de notre rébellion, tout ce qu'on a fait de travers, Seigneur, tout ce qui ne te rend pas vraiment gloire. Merci pour ce cadeau que tu nous fais, merci pour ce cadeau qui est encore valable aujourd'hui pour chacun de nous. Et merci parce que, voilà, que l'on soit depuis peu ou depuis de nombreuses années en chemin avec toi, eh ben, nos vies ne sont pas encore parfaites, mais tu es là et tu continues de marcher à nos côtés. Et tu continues à manifester ta grâce et ta patience envers nous. Merci parce que tu continues d'œuvrer au travers de nos vies et tu fais ce travail où tu agis dans nos cœurs pour nous transformer de plus en plus, pour nous amener à ressembler à Jésus-Christ. Merci pour cette œuvre dans nos vies et merci pour ta patience et ta grâce qui se renouvelle jour après jour pour chacun de nous. Je veux te bénir et te louer pour ce Dieu merveilleux que tu es. Amen.